Prions. Dieu notre Père, nous voici à nouveau tels que nous sommes devant toi. Dans un instant, nous allons entendre ta parole. Bien qu'elle nous vienne des temps lointains, permets qu'avec ton Esprit Saint, répandu sur chacun et chacune de nous, elle devienne pour aujourd'hui une parole nouvelle. Nous te rendons grâce de ce moment qui nous réunit. Amen. Nous lirons deux extraits de la Bible aujourd'hui. Le premier qui se situe dans le Premier Testament au livre du Lévitique au chapitre 25, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Tu compteras 7 années sabbatiques, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous ferez de cette 50e année une année sainte. Vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le considérerez comme saint. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Et dans le Nouveau Testament, nous prendrons un extrait de l'Évangile de Luc, chapitre 17, les versets 5 à 11. Les apôtres dirent au Seigneur : augmente en nous la foi. Le Seigneur dit : si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier : déracine-toi et va te planter dans la mer. Et il vous obéirait. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs : viens tout de suite te mettre à table ? Ne lui dira-t-il pas au contraire : prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous avait été ordonné, dites : nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avions fait ce que nous devions faire. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen.
cette vidéo qui nous a été rapportée de Madagascar cette année même. Merci.
Amis, frères et sœurs, nous sommes donc dans la joie aujourd'hui pour ce culte, au cours duquel nous rendons grâce à Dieu pour 50 ans de partenariat entre l'orphelinat Topaza à Madagascar et l'entraide de l'Oratoire du Louvre. 50 ans, un demi-siècle, donc un jubilé, comme cela vient d'être rappelé. Et le jubilé trouve ses racines dans la Bible, au livre du Lévitique, dont nous avons entendu un extrait à l'instant. Le jubilé est une institution du droit biblique. Cela se dit « yobel » en hébreu, d'où le mot « jubilé » est dérivé. Mais à l'origine, ce mot « yobel » signifie d'abord « bélier », puis « corne de bélier », et le début de l'année jubilaire était annoncé par la sonnerie de la corne du bélier, le chauffard, qui marquait le début de la fête. Mais quelle était cette fête ? C'était celle de la libération des esclaves israélites, la restauration de la propriété familiale qui avait lieu tous les 49 ans. Ce jubilé durait une année, la 50e, de telle sorte que chaque Israélite pouvait recommencer une nouvelle vie sur des bases égalitaires. Les esclaves affranchis recevaient une somme d'argent qui leur permettait de recommencer une autre vie. C'était aussi la même chose pour la terre, qui était laissée en friche pour un an. Il ne fallait pas semer, ne pas moissonner ce que la terre produisait d'elle-même, ne pas vendanger la vigne non taillée. L'idée était que personne ne pouvait amasser des richesses excessives, de même que personne n'était réduit à la pauvreté perpétuelle et à l'esclavage. Au fond, cela correspond à une remise de dette qui permet un nouveau redémarrage sur des bases plus saines. Alors, bien sûr, il ne serait ni décent ni exact de comparer le partenariat entre Topaza et l'entraide de l'oratoire à un rapport de force entre esclaves retrouvant leur liberté et donateurs retrouvant leur patrimoine, si j'ose dire. Ce serait faire offense au long travail de relations qui se sont mises en place patiemment, à distance, puis sur place, afin de monter un projet qui tienne la route jusqu'à ce jour et pour lequel nous rendons grâce. Par contre, nous pouvons saluer la foi avec laquelle ce projet s'est concrétisé, la confiance mutuelle, réciproque, entre ceux qui attendaient les fonds pour que se réalisent des projets de construction nécessitant un investissement et ceux qui espéraient que les fonds allaient pouvoir être recueillis avant d'être envoyés. Nous pouvons aussi saluer, en plus de la foi, le sens du discernement pour donner la priorité à certains projets plutôt qu'à d'autres, afin que ne soit pas gaspillé l'argent si patiemment collecté. Foi, patience, discernement, confiance, tels sont les ingrédients de la réussite d'un partenariat qui a du sens, qui donne du sens à des quantités d'enfants, premiers bénéficiaires de cette collaboration et de ce soutien. Topaza, trois syllabes, étant l'abréviation de la phrase malgache, voulant dire « lieu de salut pour les enfants ». Le jubilé de ce partenariat ne serait-il pas en train de nous conduire à une sorte de tentation de la valorisation de nous-mêmes, disons par un excès de remerciements, de congratulations, voire un désir à peine caché de reconnaissance personnelle? Personnellement, je ne le pense pas. Notre seule et sincère reconnaissance monte à Dieu dans l'expression de nos chants et de nos prières pour les connus et les anonymes qui se sont investis en temps et en heure pour l'aboutissement et la réussite de ce partenariat. Mais comme on ne sait jamais, c'est là que l'évangile de Luc vient en quelque sorte nous provoquer. Nous avons entendu, nous sommes des serviteurs inutiles. Oups, le mot est lâché, tel un pavé dans la mare. Inutile, vous avez dit inutile. Voilà bien un mot qu'on n'aime pas, surtout quand il s'agit de notre investissement personnel, que ce soit en temps ou en argent. Alors si vous êtes venu ce matin pour recevoir une parole gratifiante, c'est raté. Qu'on le veuille ou non, nous sommes des serviteurs inutiles. Mais vous l'avez senti, le mot qui pose problème, c'est évidemment ce mot « inutile » dans la version seconde. Et dans d'autres traductions, on trouve « serviteur quelconque » dans la Taube, « simple serviteur » dans la Bible de Jérusalem ou en français courant, et même par ailleurs, on peut trouver « serviteur imparfait » ou « ordinaire ». Nous voyons tout de suite la difficulté de ce mot. Choisir un terme plutôt qu'un autre, c'est donner une orientation au texte que nous lisons. Et c'est sans aucun doute le trahir. Le mot employé dans le texte grec se traduit littéralement par « serviteur non indispensable ». Souvent dans les évangiles, il nous est présenté les disciples de Jésus comme ayant l'art de poser les questions qui dérangent. Ici, il lui demande « augmente en nous la foi ». En faisant une telle demande, c'est sûr qu'il s'expose à une réponse qu'il n'avait pas envisagée. Et la réponse surprend par l'histoire d'un homme qui a travaillé toute la journée dans les champs de son maître. Le soir venu, il reste encore chez son maître pour le servir à table. Et ce serviteur est décrit comme étant inutile ou ordinaire ou quelconque. Ce que ce serviteur a fait n'a rien d'extraordinaire. Labourer les champs et sans doute s'occuper des animaux de son maître, c'est naturel, normal. Tout comme préparer à manger ou servir le maître à table, cela fait partie du travail du serviteur, d'ailleurs traduit dans le texte initialement par le mot « esclave ». Personne n'aurait songé à se plaindre. Et quand Jésus pose la question « mais doit-il de la reconnaissance ?», la réponse va de soi. Mais non, un maître n'a pas l'habitude de remercier son esclave pour avoir fait ce qu'il a à faire. Et Jésus enchaîne en disant « vous de même dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire ». Autrement dit, Jésus applique la parabole à ses disciples et quand le disciple a fait tout ce que le Seigneur attend de lui, mais au fond, quel disciple pourrait prétendre cela? Il n'a fait que son devoir et son maître ne lui doit rien. C'est là le point de comparaison de la parabole. Et en lisant les évangiles, par ailleurs, il y a d'autres textes ou d'autres paraboles qui nous apprennent que Jésus n'agira pas comme ce maître de cette histoire et qu'il récompensera ses serviteurs. Alors, le maître de notre histoire de ce matin représente non pas Dieu ou Jésus, mais chacun d'entre nous. « Qui de vous ?» demande effectivement Jésus. Et il parle de l'attitude humaine. Le faire, cela sous-entend que Dieu, lui, peut agir autrement. Dieu peut « récompenser » entre guillemets ses serviteurs, y compris quand ceux-ci sont imparfaits, y compris quand ceux-ci sont embauchés à la dernière heure. Les humains font leur travail. Dieu les récompense, non comme quelque chose qu'il leur devrait, mais plutôt comme un cadeau. Et ce cadeau, je l'appellerai la grâce. Ce cadeau gracieux est donné parce que Dieu aime en premier. La récompense gracieuse n'a rien à voir ici, ni avec la quantité du travail fourni, ni même avec la qualité de ce travail. Alors souvent ce texte apparaît comme une épine dans notre pied ou dans notre main de travailleurs bénévoles. Et si je posais la question à tous les organisateurs et les bénéficiaires de ce partenariat de savoir si c'était inutile ce qui a été fait depuis 50 ans, il est évident que chacun répondrait que non, et il aurait bien raison. Alors ce texte est difficile à recevoir, parce qu'il nous chatouille dans notre ego. Il peut faire passer les serviteurs que nous sommes, en particulier en Église, pour des inutiles, autrement dit aussi des bons à rien. Parce que quelque part, nous entendons cela. On ne vaut rien, ce qui a donné d'ailleurs le terme de « vaut rien ». Et on entend dans ce texte que le côté négatif. L'Église ne serait-elle qu'une bande de vauriens ? Mais dans ce cas, à quoi tient la valeur de notre engagement ? Est-ce qu'il tient à ce que nous faisons pour Dieu ? Pourtant, les protestants l'ont bien compris depuis la Réforme. La valeur de notre engagement, ni même de notre vie, ne tient pas à ce que nous faisons pour Dieu. Ce ne sont pas nos actions pour Dieu qui nous sauve. Mais la valeur de notre vie ou de notre engagement tient à ce que Dieu a fait pour nous. Et peut-être, pour reprendre une citation attribuée à Martin Luther, ce n'est pas parce que nous avons de la valeur que Dieu nous aime, c'est parce que Dieu nous aime que nous avons de la valeur. Et à mon sens, c'est ce qui change tout. Nous prenons souvent ce texte comme un point d'arrivée, alors que c'est un point de départ. Nous prenons ce texte souvent pour une sorte de condamnation, alors que ce n'est qu'une constatation. La parole de Jésus n'est pas là pour nous abattre, mais pour nous relever. Et nous sommes invités à l'entendre comme une bénédiction. La grâce de Dieu, c'est de ne pas être réduit à ce que nous faisons, si horrible ou si remarquable que ce soit. Notre identité personnelle, humaine, croyante, ne se trouve pas dans ce que nous faisons, mais dans l'amour que Dieu nous porte. Et en cela, nous sommes tous égaux devant cet amour donné. Parce qu'il n'est pas donné en fonction de ce que nous sommes de bons ou de mauvais serviteurs. Et si nous croyons que nous sommes des serviteurs inutiles, et pour ma part, je préférerais traduire par des serviteurs non indispensables, alors tout ce que nous aurons à faire, nous le ferons bien. Non pas comme un sentiment de jugement qui serait l'opposé du mal, mais plutôt avec ce sentiment de bénédiction, celle qui nous porte, celle qui aide à porter les autres. Alors, nous serons dans la jubilation, autrement dit dans la libération de nos esclavages personnels, en se disant que si je n'y arrivais pas, quelqu'un d'autre prendra le relais. Et c'est de cette confiance-là, de cette foi-là dont nous avons besoin, c'est cela qui doit être augmenté. Alors, frères et sœurs, amis, la vraie question n'est pas l'utilité ou l'inutilité, la vraie question est celle que les disciples posent au début de notre récit. Seigneur, augmente en nous la foi. D'accord, répond Jésus, mais dans quel but ? Pourquoi devrais-je augmenter votre foi ? Vous avez déjà une foi grosse comme un grain de moutarde, et finalement c'est suffisant, puisque vous pouvez faire de grandes choses avec si peu de foi. La question est autre. La foi n'est rien si elle n'est pas reliée à celui en qui on la place. La foi, c'est une relation de confiance envers Dieu et aussi envers les autres. Et c'est bien cela qui doit s'entretenir, s'approfondir, s'élargir. Et la qualité de notre service n'en sera que meilleure. Notre jubilation pour ce partenariat, mais aussi pour toute autre forme d'engagement dans l'entraide ou le bénévolat, ne sera plus que l'expression de notre sérénité. Amen.